Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Que vous évoque le Moyen-Âge ? Cette période de l'histoire est sujette à une multitude d'idées reçues qu'il associe bien trop souvent à un âge gangréné par la violence, la famine et la guerre. Des croyances qu'il est toujours important de nuancer, car le Moyen-Âge fut également un moment extrêmement fécond avec l'apparition de nouvelles formes d'organisation entre les sujets au tournant de l'an 1000. C'est à cette période, à la fin du Xe siècle, qu'apparaissent par exemple, pour canaliser la violence féodale, des entreprises de paix initiées par des évêques. Leur but, mieux protéger les églises et les paysans des seigneurs surpuissants et lutter contre la criminalité. Ces entreprises de paix, qui prenaient la forme de conciles rassemblant des foules immenses, ont été associées à un mouvement, le mouvement de la paix de Dieu. Mais les historiens disposent de sources limitées sur le sujet, qui gardent toujours une grande part de mystère aujourd'hui. Et pour faire la lumière sur ce moment de l'histoire de France peu connu du grand public, nous avons le plaisir de recevoir cette semaine l'historien Dominique Barthélémy. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et médiéviste, et vous vous intéressez particulièrement à l'histoire de la France capétienne et de la société féodale au Moyen-Âge. Mais pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, donnons quelques repères temporels aux auditeurs. Nous parlons d'un âge qui se situe donc au tournant de l'an 1000, je l'ai dit. En France, c'est un moment très important. Une nouvelle dynastie est en train de s'installer, les Capétiens. Hugues Capet est le premier roi de cette lignée qui va régner sur la France pendant plus de 1000 ans, ce qui est absolument considérable. En quoi cette dynastie est importante ?
Vous avez très bien présenté les problèmes qui se posent dans l'étude de l'an 1000, des entreprises de paix. Sur la question de l'avènement d'Hugues Capet, je crois qu'il faut être un petit peu nuancé. Parce qu'en réalité, ce qu'on peut appeler l'âge féodal, c'est une période qui a déjà commencé environ 100 ans avant l'an 1000.
Sous les Carolingiens.
Moi, j'aime à parler de période post-carolingienne, à l'époque des incursions normandes, à l'époque de l'avènement des princes régionaux, des grands comtes. Il y a un certain nombre de choses qui prennent un tour nouveau. C'est à ce moment-là qu'il commence à y avoir des guerres féodales. Et c'est à ce moment-là aussi que les Carolingiens ne sont plus les seuls rois possibles et le grand-père et l'oncle du Capet sont rois dès 888 pour son grand-oncle et 922 pour son grand-père. Donc Capet n'est pas d'une famille si nouvelle que ça. Ce qui se passe à la fin du Xe siècle, ce n'est pas tant l'avènement d'une nouvelle dynastie que la fin de la rivalité entre deux dynasties, et même deux et demi. Hein. Et donc, du fait qu'il n'y a plus deux dynastie rivale, c'est quand même un petit plus pour la royauté. Mais en réalité, la famille du Capet est déjà bien en place depuis plus de 100 ans, et je crois la césure chronologique qui compte, c'est la fin du Xe siècle. Ensuite, ce sera plutôt le début du XIIe siècle, ou les abords de 1100. Mais si mes analyses ou celles d'autres collègues sont exactes, la période autour de l'an 1000 n'est pas une période marquée par tant de transformations que ça. Il y en a quelques-unes.
On va nuancer, justement.
Il y a des choses, mais la chronologie, c'est plutôt 900-1100 et on est au milieu d'une période qu'on peut appeler le premier âge féodal, comme faisait Marc Bloch dans les années 1930.
Alors, à ce moment-là, donc, la France, évidemment, ne ressemble pas encore au royaume unifié et bien défini que l'on va connaître plus tard. Le pays est alors divisé en comtés, en duchés, et le roi ne s'appelle pas encore le roi de France, mais le roi des Francs. Il faut attendre 1181 et le règne de Philippe Auguste, qui sera donc le premier souverain à porter le titre de roi de France.
Oui, alors le problème principal pour la question de la titulature du Capet, c'est ce qu'on appelle France. Parce que la France, ce n'est pas tout son royaume. La région qu'on appelle France à son époque, cela commence à la hauteur de la Loire, et donc c'est le nord-est du royaume. Et alors ça, le serment de paix de Guérin de Beauvais concerne en effet une partie de la France.
On en parlera plus tard,
mais tout
oui.
autour, ça ne s'appelle pas France, et le chroniqueur Richer de Reims déclare que Hugues Capet a été élu roi des Francs, et aussi par la même occasion, roi des Danois, il dit ça pour la Normandie, des Bretons, des Gascons, des Aquitains, des Goths et des Espagnols. Donc il signale six importantes principautés. Et deuxièmement, Marc, en revanche, donc ce n'est qu'une partie du royaume qui s'appelle France, mais il y a d'autres France en dehors du royaume. C'est-à-dire que le vieux mot de France s'applique encore à une zone située entre la Meuse et le Rhin, ce que nous appelons la Lorraine, la Lotharingie, la partie de la France qui était dévolue à Lothaire II, même le neveu de Charles le Chauve, la Lotharingie, qui s'appelle France-Lorraine et qui conteste à la France de Capel le monopole du terme. Et même, il y a même une partie d'Allemagne qui s'appelle Franconie, qui est encore une sorte de France. La restriction du mot France à un royaume capétien n'est pas du tout acquise, ni non plus son extension, vous voyez.
Donc on parle du Capet, il y a également son successeur Robert le Pieux. Et tous ces monarques en fait, sont entourés à l'époque de châtelains, de vassaux qui occupent donc de vastes régions. Ce sont des riches propriétaires qui possèdent un fief, qui détiennent aussi une forme d'autorité sur le territoire. Et cela, est-ce qu'on peut dire que ça va créer des formes de tension sur le territoire ?
Alors, dans la situation de l'an 1000, du premier âge féodal, il y a évidemment pour le roi une préséance. Il est le seul gouvernant à être sacré. Et il a évidemment des égaux, des partenaires dans le monde post-carolingien, même quelqu'un qui l'emporte un peu sur lui, c'est l'empereur. Et il le rencontre occasionnellement aux limites du royaume. On peut d'ailleurs en dire quelques mots à propos du serment de Guérin. Ensuite, dans son royaume, il y a une dizaine de personnages importants qui portent le titre de comte tous et un titre même rehaussé de celui de duc ou de marquis. Et ces personnages sont de véritables petits souverains dans leur territoire, hein, pas seulement des propriétaires, mais vraiment des gouvernants, qui sont amenés à s'opposer entre eux, mais dans une certaine mesure seulement, et qui sont amenés à se déclarer fidèles du roi, qui ne le contestent pas, Capet ne sera pas véritablement contesté. Pourtant, sous lui se produit la destruction d'un dernier prétendant carolingien, mais ça ne soulève aucune vague à notre connaissance dans le royaume. Et donc, le royaume est un système d'une dizaine de principautés, avec également même entre elles quelques interstices, des zones qui sont à des comtes secondaires ou des zones où ce sont les évêques qui, en réalité, détiennent l'essentiel du pouvoir. Et c'est dans ces zones-là, là où les évêques ont le pouvoir, plutôt dans le sens d'un renforcement de ce pouvoir, que les statuts de paix diocésaine, que ce qu'on a appelé le mouvement de la paix de Dieu, trouvent un champ privilégié.
Un écho, il va commencer. Alors, avant juste de parler de ces entreprises de paix, pour que les auditeurs comprennent bien, donc on disait effectivement qu'il y avait des petites guerres internes, en fait, entre seigneurs, mais qu'évidemment, ça ne remettait pas en cause le pouvoir du roi, du monarque. Mais tout de même, il y a, disons, quelques impacts. Et les premières victimes de ces guerres féodales, ce sont donc les églises et les paysans. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus précisément comment ces sujets et les églises sont impactés par ces guerres internes ?
Alors, donc je vous remercie de cette question. J'en profite pour vous signaler que notre académie a publié il y a quelques jours un recueil d'études sur le château de Langeais qu'elle possède, le comte Foulquenéra. Et les châteaux des Pays de Loire de l'an 1000 à la première croisade. Alors, on trouve dans ce recueil une série d'études qui concernent en effet la guerre féodale. Le chroniqueur Richer de Reims, en particulier dans les dernières années du Xe siècle, montre ce que c'est que la guerre féodale. C'est une guerre civile, évidemment, on peut l'appeler comme ça, mais c'est une guerre civile pleine de civilité, où on évite les batailles. Alors, il se trouve qu'il y a une bataille en Bretagne qui s'appelle Concreuil en 992, mais c'est un peu un cas exceptionnel.
Oui, ce ne sont pas des bains de sang.
Quand Foulquenéra, qui dispute la Touraine au comte de Blois et qui construit le château de Langeais dans ce but, qui fortifie le château de Loches, il y a d'admirables découvertes récentes des archéologues qui sont résumées dans ce recueil que l'Académie vient de publier, Pierre Papin sur Loches, et puis Édouard Impey et Elisabeth Lawrence sur Langeais, et également Luc Bourgeois sur Douai-la-Fontaine. Donc on se rend bien compte qu'on avance les châteaux comme des pions, mais il est rare qu'il y ait d'abord de véritables sièges avec assaut, il est rare qu'il y ait de véritables batailles. On esquive, on négocie entre les campagnes, et en effet, la guerre féodale, ça consiste avant tout à faire des raids dans lesquels on s'en prend aux biens des paysans adverses.
Des pillages, parfois.
Mais ces paysans peuvent n'être pas sans réaction. Nous, je crois que nous ne devons pas imaginer qu'ils se laissent faire comme des moutons. Ce n'est pas si évident que ça, oui, de dominer le terrain, même pour des chevaliers beaucoup mieux équipés.
Alors justement, on arrive au sujet qui nous intéresse, c'est dans ce contexte-là que, donc, vous dites, des entreprises de paix apparaissent pour, entre guillemets, calmer le jeu. Qui en prend l'initiative exactement? Est-ce que ce sont donc les évêques, des hommes d'église?
Alors, en fait, donc, ce qui se produit à propos des guerres féodales, hein, et de manière générale à propos de tous les actes de violence dont nous pouvons avoir connaissance par des sources, il existe certainement dans cette société toute une série de régulations. Hein. Et notamment, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, qui est très importante, c'est qu'un homicide, tuer un adversaire, ou même tuer un paysan qui résiste au pillage, ça ne passe pas complètement inaperçu. L'esprit moderne a longtemps cru que l'époque féodale était sans limite, sans mécanisme de freinage. Non, un homicide, ça ne passe pas inaperçu. Il y a toujours des réparations à faire, il y a toujours une régulation sociale. Ouais. Et donc, d'une certaine façon, on n'a pas besoin de légiférer contre l'homicide parce qu'il y a déjà des lois. Un homicide, en tout cas, il faut s'en tirer par une pénitence. Le comte d'Anjou, Fulconera, doit même faire pénitence. Il semblerait, il y a un très bel article de Jean-Marie Meuglin sur son historiographie, mais du fait qu'il y a eu du sang chrétien qui a coulé dans sa bataille contre les Bretons, il doit faire un pèlerinage à Jérusalem. On est en pénitence. Ça veut dire que, attention, hein, quand on tue un adversaire à la guerre, c'est pas du tout le cas aujourd'hui, eh bien, on est en faute. On risque une vengeance de la part de sa famille. Il faut proposer une réparation et, en outre, il est bon de faire une expiation religieuse. Le vol qualifié, on risque la pendaison. Il y a quand même des justices. Pour un certain nombre de litiges, la justice, les instances judiciaires fonctionnent. Simplement, il est relativement courant que les gens qui ont un conflit entre eux, pour une terre, même si c'est pas des seigneurs châtelains, même si c'est pas des princes, les gens se livrent à des voies de fait. On réclame une terre contre un voisin, eh bien, on va mettre le feu à une récolte, mais toujours d'une manière assez ciblée. Hein, on va enlever du bétail, malgré tout, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire, enlever du bétail, vous faites peur à des vaches et à des bœufs et vous les poussez ailleurs. C'est vraiment ce qu'il y a de plus facile, donc c'est pour ça que les entreprises de paix en parlent. Et à un certain moment, c'est vrai, on a constaté sans doute que la pression des paysans pour qu'on les aide à obtenir réparation s'est accrue. Sans doute que l'Église qui avait des seigneuries a été influencée par la pression de ses propres paysans, et bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par ses propres intérêts. Mais on a voulu mettre en place une procédure judiciaire, une possibilité supplémentaire d'obtenir réparation contre des pillages, en y ajoutant des règles spécifiques pour la protection des lieux saints, des lieux d'église et des personnes saintes, des religieux qui se déplaçaient. Et puis petit à petit, c'est toutes les personnes désarmées que les statuts de paix vont chercher à protéger. Petit à petit aussi, c'est presque toutes les catégories sociales dont on va essayer de protéger les biens. Mais ce n'est pas la seule manière de permettre et d'encourager des revendications et d'assurer une certaine sauvegarde pour les paysans comme pour les religieux.
En tout cas, tout est parti quand même de l'engagement de certains évêques, on peut dire ça, en faveur de l'ordre public.
Oui,
c'est l'Église, en fait, qui s'engage dans, en faveur de l'ordre public ?
Absolument. L'entreprise commence en Aquitaine, donc pas en France, oui, dans le sens de l'époque, hein, soit dans le Poitou à Charroux, soit peut-être au Puy en Velay. En tout cas, c'est le statut du Puy en Velay qui a eu de l'influence, et c'est lui qui est la matrice initiale de la série des serments de paix, dont celui de Guérin de Beauvais qui nous intéresse aujourd'hui.
On va en parler dans un instant. Est-ce qu'on sait pourquoi dans ce territoire précis, pourquoi en Aquitaine
Alors, c'est difficile à préciser, c'est une très bonne question aussi. C'est difficile à préciser, il y a évidemment plusieurs possibilités. D'abord, peut-être les problèmes de violence étaient-ils plus importants dans ces régions-là, mais nous manquons d'éléments pour
le
démontrer. L'influence des évêques était peut-être plus forte. Et d'autre part, on va le voir aussi tout à l'heure, ça pose quand même un problème pour un évêque de s'engager comme ça dans la défense de l'ordre public, puisqu'elle le conduit à aller, en cas d'échec de l'excommunication et des sanctions spirituelles, elle va le conduire à commander une campagne guerrière, à déclencher une guerre pour la paix. Mais de toute façon, il y a beaucoup de gens qui font des guerres pour la paix en tout temps. Tout le monde ou presque dit qu'il fait la guerre pour la paix, donc ça sera contesté. Alors là, les évêques partent sur une pente un peu glissante et il semblerait que les évêques aquitains aient eu là-dessus un peu plus d'aplomb que les évêques du Nord qui avaient des traditions plus fortes de réserve, de retenue à ce sujet, et qui pouvaient probablement aussi compter sur des princes un petit peu plus efficaces pour la défense des seigneuries d'église. Mais à vrai dire, c'est difficile de bien savoir pourquoi dans cette région. Tout ce que nous pouvons faire, c'est constater que les entreprises de paix ont cheminé ainsi. Et j'ajoute quand même qu'elles sont une destinée déjà française au sens actuel. C'est-à-dire que c'est quand même très largement une formule qui concerne le royaume capétien ou ses abords immédiats. Mais il y aura assez peu d'autres statuts de ce type dans les autres pays de la chrétienté latine. Il y aura des trèfles de Dieu, c'est un peu autre chose.
Qui arrive plus tard.
Même là, une diffusion assez limitée hors du royaume capétien.
Et est-ce que dans un premier temps, ces pressions-là de l'Église, est-ce qu'elles sont suffisamment fortes pour que ça fonctionne ? Est-ce que la pression d'excommunication des évêques fonctionne et finissent par réguler correctement les choses ?
C'est un problème intéressant. L'Église au Moyen-Âge a en effet ce pouvoir, on appelle ça le glaive spirituel, les armes spirituelles, d'excommunier ceux qui se mettent en tort grave par rapport à ses commandements. Elle défend un certain nombre de règles et de lieux et de personnes par la menace d'excommunication. Il y a quand même une procédure pour la lancer. On ne dégaine pas une excommunication comme ça du jour au lendemain. Et cette excommunication, théoriquement, d'abord, condamne l'excommunié s'il meurt sans être réconcilié, en principe aux peines éternelles. Et puis même avant cela, normalement, il ne doit plus avoir de liens sociaux, on ne doit plus manger avec un excommunié, il y a des textes qui le disent, être avec lui, être avec elle aussi, ça arrive à des femmes, mais enfin surtout des hommes qui s'y exposent. Alors en pratique, il est bien clair que l'excommunication, qui a l'air d'être une arme absolue, ne l'est pas tout à fait, parce qu'il y a tout de même deux séries de problèmes. D'abord, c'est absolument impossible d'obtenir un boycott complet de la personne excommuniée. Tout ce qu'on peut faire, c'est malgré tout lui interdire l'entrée des églises et la perception des sacrements. Bon, c'est quand même gênant dans une société chrétienne. Mais enfin, bon, quand on est
chrétien, c'était la matrice vraiment de cette société-là.
Ça impressionne quand même plus quand on a 50 ans que quand on en a 20. C'est plutôt les jeunes chevaliers qui osent braver les excommunications. Et puis d'autre part, comme il y a toute une série de procédures et de règles, les excommunications sont souvent contestées dans leur validité, et contestées avec l'aide d'autres évêques que ceux qui les ont lancées. Il y a beaucoup de nobles excommuniés qui ont des frères ou des cousins qui sont évêques, qui refusent de reconnaître la validité de leur excommunication. Donc vous voyez...
Et vous disiez juste avant que donc ces entreprises de paix étaient propres en tout cas au territoire capétien, c'est sorti de là. Est-ce que toutefois, dans l'histoire, auparavant, on a déjà eu affaire à ce genre d'entreprise à d'autres époques, sous l'Antiquité par exemple, ou c'est totalement
non, inédit? C'est quelque chose de nouveau dans ces procédures, puisque une entreprise de paix dans un diocèse consiste à demander un serment aux chevaliers et parfois à tous les paroissiens, un serment comme celui de Guérin, de respecter un certain nombre de choses. Et ensuite, on instaure une session judiciaire. Deux fois par an, on peut venir se plaindre auprès de l'évêque et des hommes qu'il a nommés pour cela d'infractions. Et ensuite, on est obligé de réparer sous peine d'excommunication. Et si ça ne suffit pas, il y a, semble-t-il, en tout cas dans beaucoup de diocèses, une mobilisation générale en armes des paroissiens qui s'appelle la commune, qui en général ne rassemblera que les hommes de l'évêque lui-même, mais c'est déjà quelque chose, et de quelques seigneurs. Donc, l'institution elle-même est tout à fait nouvelle.
Et alors, on en arrive au fameux serment Guérin de Beauvais, dont vous parlez depuis tout à l'heure. Parmi tous ces textes et ces pactes, il y a donc ce serment qui est peut-être un peu plus connu que les autres. C'est le texte de l'évêque de Guérin de Beauvais, soumis au roi Robert le Pieux en 1023. Pourquoi ce texte est plus connu que les autres?
Il a fait sensation quand on l'a trouvé en 1885, publié en 1885, il en l'avait trouvé quelques années avant, à Rome, à la Bibliothèque Vaticane, dans un manuscrit qui, malheureusement, est un manuscrit qui a été chamboulé, recomposé au XVIe siècle, donc nous ne savons pas où et comment il avait été conservé, mais en tout cas, il a fait du bruit dans le monde des historiens quand il a été retrouvé. Il est plus complet qu'un serment qui est très intéressant aussi, qui lui ressemble de très près, qui était un peu antérieur, qui était le serment du diocèse de Langres et fait pour le comté de Bourgogne. En revanche, il y a un serment qui est encore plus intéressant, qui est le serment du diocèse de Vienne, mais ce serment a été retrouvé après, et le serment de Guérin de Beauvais a bénéficié dans nos manuels et dans la République des historiens modernes de l'antériorité de découverte par rapport à celui de Vienne et donc de son caractère de texte complet par rapport au serment de Langres et de Verdun sur le Doubs qui était le grand concile qui l'avait encouragé.
Parce qu'effectivement, un des gros problèmes rencontrés par les historiens, c'est que tous ces textes ont fini par disparaître de la circulation. On les a redécouverts, mais finalement, il y a encore très peu de sources historiques.
Alors effectivement, comme pour beaucoup d'institutions et de phénomènes de cette époque, nous avons une documentation qui est fragmentaire, qui est un peu aléatoire. Bon, quand on parle avec des confrères antiquisants qui font l'étude de la Grèce ou de l'Égypte, ils nous trouvent très bien pourvus en documentation. Oui. On sait beaucoup plus de choses. Mais évidemment, quand on est en comparaison avec des collègues ou confrères qui étudient la fin du Moyen-Âge ou l'époque moderne, on est obligé par moment de reconnaître qu'on a de grosses failles. Donc on fait ce qu'on peut pour bien comprendre comment ces textes d'abord nous sont parvenus, à quoi ils servaient, mais il est bien évident qu'il y a des failles dans notre documentation. Nous savons de toute façon mal à quel débat, nous avons une petite idée quand même, on peut en parler, mais nous savons mal qui poussait le plus à l'adoption de ces serments et ces institutions de paix. Nous savons mal quel impact ils avaient.
Leur fréquence, est-ce qu'ils étaient nombreux ?
Normalement, c'était renouvelable tous les 5 ans. C'est difficile à apercevoir. Mais il y en a quand même pendant plus de 100 ans en France et pendant plus de 200 ans en Aquitaine. Il y a tout de même quelques discussions et quelques polémiques à leur sujet. Donc, c'est quand même la preuve que ça n'était pas tout à fait rien.
Est-ce qu'on sait, par exemple, à quelle échelle il s'appliquait ? Est-ce qu'il s'appliquait à l'échelle du village, à l'échelle du comté ?
À l'échelle du diocèse.
À l'échelle du diocèse.
À l'échelle du diocèse, c'est une institution diocésaine. D'ailleurs, je propose de parler de paix diocésaine, entreprise diocésaine, la trêve de Dieu qui vient après, venant s'installer dans le même moule, mais avec des procédures et des objectifs un peu différents.
Alors, vous le disiez, les sources historiques manquent beaucoup. Est-ce qu'on sait tout de même des choses sur la vie de cet évêque Guérin de Beauvais?
Alors Guérin de Beauvais, oui, on sait quand même quelques petites choses. Donc il avait un collègue qui militait avec lui, hein, de toute évidence, qui s'appelait Béroud de Soissons. Ils sont signalés comme faisant une sorte de lobbying en faveur du serment de paix. Donc on sait que c'était l'évêque d'une ville, Beauvais, l'autre de Soissons, c'est un peu la même situation, qui se situe un peu en périphérie de la zone d'influence royale, du domaine royal, donc entre le domaine royal et la Flandre, et l'aire d'influence du comte de Flandre. Mais cet évêque est un fidèle du roi Robert. Le roi Robert a certainement joué un rôle dans sa nomination, dans son élection et sa nomination. Les rois, les princes aussi, pouvaient influer les nominations d'évêques. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient tout seuls à les faire, ça dépendait des cas. Ils n'avaient en tout cas pas le pouvoir de blackmouler les évêque, de le destituer. En tout cas, c'était très difficile. Ils ont parfois essayé, mais c'était vraiment très dur. Donc, Guérin de Beauvais était ce qu'on appelle un évêque royal, fidèle du roi Robert le Pieux. Mais il pouvait avoir des ennemis et des amis à la cour du roi. Nous savons bien qu'il y avait des tensions. Il y avait toute une vie dans la province ecclésiastique de Reims, dont Beauvais et Soissons font partie, et nous savons que toute une vie de groupe, de collégialité entre les évêques, ils se concertaient entre eux. Nous savons donc que Guérin de Beauvais essayait de faire pression sur son collègue d'Arras et Cambrai, qui s'appelait Gérard de Cambrai, qui lui était réticent au serment. Nous savons que l'évêque de Chartres, Fulbert, était sans doute favorable à ce serment, mais voilà, de Guérin de Beauvais, on sait aussi qu'il a participé à la répression d'une hérésie à Orléans, qu'il a interrogé les hérétiques qui ont été les premières victimes d'un bûcher d'hérétiques, en fait, hein, en France médiévale, en 1022. Mais on ne peut pas dire tout de même que nous ayons de quoi faire une biographie détaillée de ce personnage. Mais c'est un évêque dont les successeurs ont eu ensuite des droits comtaux sur la région de Beauvais. Et donc, il est probable que le serment a été prêté, que l'institution a été mise en place et qu'elle a joué un rôle pour faire des évêques de Beauvais, des évêques comtes, ceux qu'ils sont restés, puisqu'ils ont été très durablement parmi les pairs de France, participant en tant que tels au sacre royal. Ils sont parmi les 6 pairs ecclésiastiques de France.
Alors, je voulais revenir sur ce serment de Guérin de Beauvais. Il a certes joué un rôle important, mais vous dites qu'il ne faut pas lui donner un poids trop important. Certains l'ont vu comme une partie d'un projet de paix à l'échelle européenne. C'est faux, il faut nuancer.
Oui, alors il y a une ambiguïté. Là, chez les historiens, il y a un véritable problème de décryptage de leurs sources. Le mot « paix », en réalité, est assez fréquent dans le vocabulaire médiéval. C'est ce que nous appellerions aujourd'hui un élément de langage. Donc souvent, pour légitimer ce qu'on fait, pour dire qu'on a de bonnes intentions, on dit qu'on cherche la paix. Les hommes de l'an 1000, enfin les lettrés, les gens d'élite, étaient passés maîtres là-dessus. Leur com, c'était de dire qu'ils travaillaient à la paix, même quand
ils faisaient tout et rien.
Donc quand l'historien moderne rencontre ce mot, en revanche, lui, il croit que les hommes de ce temps ignoraient complètement la paix, que la paix, ça n'avait pas... Il peut croire, hein, moi je ne le crois plus, les collègues de ma génération non plus, mais longtemps, on a cru que si le mot paix apparaissait, hop, c'était un miracle. Mais en réalité, le mot est relativement fréquent. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une entrevue entre le roi Robert le Pieux et le roi d'Allemagne et d'Italie, l'empereur Henri II, sur la frontière entre les royaumes, donc la frontière entre la France occidentale encore et la Lotharingie, la France médiane, et que lorsqu'ils se sont rencontrés, ils ont dit « on est là pour parler de la paix ». Mais parler de la paix, alors il y a là-dessus un très bon texte de notre correspondant Patrick Corbet dans un volume que j'ai co-dirigé sous l'égide de Michel Zinc, de notre secrétaire perpétuel honoraire et membre de l'Académie française, sur Allemagne et France au cœur du Moyen-Âge. On peut lire ce très intéressant volume et il y a un article de Patrick Corbet qui explique bien ce que c'était que cette entrevue. Par paix, l'empereur voulait dire qu'il réclamait le soutien de Robert le Pieux pour une réforme de la papauté, discipline ecclésiastique en Italie, et Robert le Pieux voulait que l'empereur se mêle à lui dans son conflit contre le comte de Blois. Donc voilà ce qu'on appelait
paix. Ça sert deux intérêts.
Ça n'avait en réalité pas tellement de rapport avec l'entreprise de paix de Cézanne, ouais, précise, et encore moins avec une idée de paix générale à la manière de Kant ou d'autres, ouais, utopistes de l'époque moderne.
En tout cas, pour remettre les choses dans leur contexte, on pourrait dire que le but principal de ces paix de Dieu, c'était de, avant tout de protéger les seigneuries ecclésiastiques.
Dans un sens,
c'est
oui,
discutable.
Mais néanmoins, il faut prendre garde au fait que, malgré tout, les statuts disent que ça protège tout le monde. Je suis persuadé que ça ne protégeait pas que les seigneuries ecclésiastiques. Et d'ailleurs, un certain nombre de moines, de seigneurs monastiques, ne s'en souciaient pas tant que ça. Ça protégeait sûrement la seigneurie des évêques, mais on ne peut pas dire que c'était purement pour les églises.
C'est
ça avait
ça.
Sûrement une répercussion plus large. D'ailleurs, ça aidait les évêques à acquérir des droits comtaux, hein, comme c'est le cas des évêques de Beauvais. Nous avons des preuves dans le Gévaudan, donc la région de Mende, hein, le diocèse de Mende, pour lequel nous avons des documents exceptionnellement intéressants, que vraiment, c'était quand même une institution qui fonctionnait à l'échelle du diocèse à certains moments.
Et malheureusement, donc, ces serments gardent encore une grande part de
oui,
mystère, et c'est difficile de mesurer leur impact, leur fréquence. La documentation reste très lacunaire. Il y a eu beaucoup de querelles entre les historiens et avec des théories différentes. Est-ce qu'aujourd'hui, on est arrivé à une sorte de consensus sur toutes ces législations, ou alors il reste encore beaucoup de
Écoutez, bon,
choses
le,
à définir.
Le problème, c'est qu'on essaye de faire des avancées. Bon, bah, je pense que sur le sujet, il y a un excellent livre en allemand dont l'auteur s'appelle Hartmut Hoffmann, il s'appelle Gottesfrieden und Treue Dei, qui date de 1964. Le problème d'un certain nombre d'historiens, c'est qu'ils ne lisent pas l'allemand et qu'ils publient un peu trop rapidement sans s'intéresser à l'érudition. C'est le rôle de l'Académie des inscriptions et de l'Institut en général de rappeler tout de même que l'érudition et la rigueur scientifique de manière générale sont tout à fait nécessaires en notre période de productivisme excessif, de pressing sur les historiens et les doctorants. Nous sommes là pour perpétuer une manière de travailler peut-être plus lente et plus rigoureuse, par exemple prendre le temps de lire la bibliographie en allemand, pour soutenir ceux qui le font et pour éclairer le public sur la différence entre les historiens médiatiques et les historiens sérieux. Donc chez les historiens sérieux, eh bien, nous sommes quelques-uns à nous appuyer sur le livre d'Hartmut Hoffmann que nous avons pris la peine de lire et à mener un travail d'érudition aussi rigoureux que possible, qui est un peu ingrat, mais qui réserve parfois de très belles surprises. Je me suis aperçu qu'on pouvait redater certains statuts de paix, pas celui-là, mais d'autres. Je me suis aperçu, en prenant la peine d'aller vérifier le texte original qui est sur Internet, qu'il y a deux fautes graves dans la compréhension traditionnelle du serment de Guérin de Beauvais.
C'est-à-dire ?
Je vous donne un exemple. Le latin médiéval, c'est quand même un texte latin du 11e, 12e que nous en avons, précède par abréviation. Et on a mal lu une abréviation. On a cru qu'il y avait écrit un endroit perfida iussione, c'est-à-dire qu'un seigneur ne doit pas prendre le bien d'un paysan. Et toutes les traductions que vous allez trouver dans les livres, sauf celles que j'essaye de mettre en circulation, vous dites il ne faut pas s'en prendre à un paysan à la perfide instigation de son seigneur. Ça voudrait dire que les seigneurs étaient en connivence entre eux pour se piller les paysans les uns des autres. Alors entendons-nous bien, je ne prends pas les seigneurs du Moyen-Âge pour des enfants de cœur, c'était des types quand même assez rudes, hein, quand on dit ils n'étaient pas d'une violence déchaînée, mais ils savaient calibrer, doser leur violence, ce qui les rendait d'une certaine façon d'autant plus dangereux, hein, il faut aussi être réaliste là-dessus, mais le texte ne porte pas perfida iussione, il n'y a pas per, il y a pro, ça c'est très net du point de vue de l'abréviation, c'est pas perfida plus loin iussione, c'est pro fide iussione. Donc c'est, on ne prend pas l'avoir d'un paysan en le considérant comme caution de son seigneur. La preuve, c'est que dans le serment de Vienne, qui est fait sur le même modèle, il y a le même article, et là, il y a un autre mot remonté de la langue vulgaire, qui est « professura seniorit sui », et là, « fesuria », c'est un terme local de la région de Vienne et du sud-est de la Gaule, et ça veut dire « la caution, la fidélisation ». Donc, vous voyez, il y a un autre problème pour l'escorte, où on ne se rend pas compte que le serment de paix n'autorise à prendre le bétail des paysans pour des hostes publics qu'en ayant payé, qu'en l'ayant acheté. On ne peut tuer des bêtes des paysans que des bêtes qu'on leur a payées.
Oui, donc effectivement, un mot peut changer considérablement l'interprétation.
Voilà. Mais pour ça, il faut suer sang et eau pendant un certain temps, et puis un jour, un matin, crac, on s'aperçoit qu'il y a une chose à changer qui n'est quand même pas anodine.
De nouvelles perspectives.
Voilà.
Pour finir, Dominique Barthélemy, le serment de Guérin de Beauvais donc, remonte à l'an 1023. Nous sommes tout juste 1000 ans après ce serment. La date figure dans le calendrier 2023 de France Mémoire, qui est donc la mission des commémorations nationales. Pourquoi c'est important de se souvenir aujourd'hui de ce moment de l'histoire ?
Je dirais que toute l'histoire des hommes, en tout temps et à tout moment, est quand même digne d'attention et de souvenir. Hein. Je crois que c'est important, évidemment, que nous soyons à même de préciser ce qu'ont été les rapports sociaux, l'histoire politique de notre pays, le rôle de l'Église aussi. Et actuellement, je dois le dire, se répand dans les médias par des historiens médiatiques, une théorie un petit peu excessive, qui comporte une part de vérité, mais qui est un peu excessive, qui attribuerait à l'Église un désir forcené de dominer la société médiévale et de soutenir l'ordre social, féodal. Et je pense qu'en réalité, c'est un tout petit peu compliqué que ça. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup de connivence entre l'Église et les seigneurs. Il est vrai qu'elle a souvent justifié l'ordre social, mais elle n'a pas fait que cela. Il existe aussi dans l'histoire du haut clergé, chez les consciences chrétiennes du Moyen-Âge, un sens de la communauté, un sens de la justice sociale qui peut potentiellement amener à des actions qui ne sont pas toutes si favorables que ça au maintien de la féodalité. Je crois que, malgré tout, ces entreprises de paix diocésaine qui limitent l'autorité des seigneurs féodaux, elles ne font que les limiter, elles ne les abolissent pas, mais elles contiennent des germes de changement. Et il est très probable, justement, dans le nord de la France, dans la région de Beauvais, dans les diocèses voisins, qu'un peu plus tard, aux alentours de 1100, les communes urbaines qui se sont constituées, alors pour défendre des intérêts bourgeois, des intérêts marchands, mais quand même des intérêts non nobles, des intérêts autres que ceux des chevaliers, les communes urbaines doivent quelque chose à ces entreprises de paix. Elles ne leur doivent pas tout, mais il y a quand même quelque part une petite impulsion de l'Église pour le changement social et pour la justice sociale. Et je crois qu'il faut garder en vue cet élément en évitant de dire tout uniment que l'Église c'était à 100% une espèce d'annexe ou même peut-être le cœur de la domination féodale. Là, il y a quelque chose qui ne colle pas.
Non, il faut prendre le temps de nuancer.
Voilà, il faut prendre le temps et la peine d'une réflexion un tout petit peu plus équilibré, un tout petit peu plus nuancé.
Et c'est ce que nous retiendrons. Un grand merci Dominique Barthélemy de nous avoir éclairé sur ce moment de l'histoire. Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter le dossier réalisé par France Mémoire qui est donc disponible sur son site, dans lequel on peut trouver une notice que vous avez rédigée, Dominique Barthélemy, et des infos complémentaires. Un grand merci.
Merci.
Canal Académie.